La santé, c'est l'affaire de tous.
Merci d'être avec nous, il est l'heure de parler santé sur Phare FM Montauban. Nous retrouvons notre légendaire docteur Edmundo Pereira. Bonjour Edmundo, comment vas-tu aujourd'hui ?
Très bien, bonjour Laurent.
Je ne te poserai pas la question si tu es concerné par le sujet du jour. Il s'agit du dysfonctionnement érectile et selon l'enquête réalisée en 2019 par l'IFOP pour Charles Poingot, elle est éloquente. En effet, en 2054% des Français souffraient de ce trouble, 49% en 2010, pour atteindre le large chiffre de 61% en 2019, une pathologie qui ne concerne que les hommes mais qui touche également les femmes. Et justement, pour en connaître davantage, ton invité du jour est le docteur Béatrice Cuzin. Bonjour docteur.
Bonjour Laurent.
Vous êtes chirurgien, urologue au service médecine sexuelle et reproductive à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Le sujet reste tabou, mais je suis certain qu'il va aider bon nombre de nos auditeurs. Docteur Cuzin Edmundo, l'antenne est à vous.
Merci beaucoup Laurent. Avant de commencer à attaquer cette émission, je voulais quand même la dédier à quelqu'un qui est très cher pour nous, très cher pour Béatrice et pour moi, le professeur Jean-Michel Dubernard qui malheureusement nous a quittés. Max, comme on aimait l'appeler, c'était quelqu'un de très important, essentiel pour l'urologie française aussi internationale. Et en plus, j'ai eu le plaisir que c'était Max qui m'a marié avec ma femme au 3e à Lyon. Voilà. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, Béatrice ?
Oui, bien sûr, Edmundo. Alors d'abord, c'était un grand plaisir pour moi aussi d'être avec vous, parce qu'effectivement, on a gardé des liens importants à la suite de ton passage, comme tu as pu le rappeler. Je m'occupe de médecine sexuelle et infertilité à l'hôpital Édouard Herriot depuis de nombreuses années. J'ai également une activité privée et je fais partie de pas mal de sociétés scientifiques. Je suis impliquée dans cette spécialité déjà depuis longtemps.
Effectivement, on va commencer par la première question. Quelle est la définition de la dysfonction érectile ?
Alors, la dysfonction érectile, c'est quand on a un problème d'érection. Donc, soit un manque de rigidité, donc la rigidité et la dureté, c'est la même chose, soit l'érection qui ne tient pas dans le temps, donc c'est-à-dire qu'elle arrive mais qu'elle ne tient pas suffisamment, et quand ce trouble se répète pendant plus de 3 mois. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle les PAD sexuelles, elles peuvent survenir chez tous les hommes. Ça, c'est important de le savoir. Et ces PAD, elles peuvent survenir quand on est fatigué, quand on manque de motivation. Et donc, en fait, pour qu'une PAD soit significative et qu'on puisse parler de dysfonction érectile, il faut qu'elle se répète pendant plus de 3 mois.
Comment expliquer la dysfonction érectile ?
La dysfonction érectile, en fait, c'est un problème de régulation de la fonction érectile qui est donc liée avec le corps caverneux. Donc, le corps caverneux, c'est un muscle creux qui est rempli de sang. L'intérieur du corps caverneux est comme une éponge. Et en fait, le fonctionnement de ce corps caverneux, c'est un fonctionnement qui, comme beaucoup d'organes, fait appel à une double innervation. Une innervation qui lui permet de rester fermé au repos et une innervation qui doit lui permettre de s'ouvrir. Et donc, quand il n'y a pas suffisamment d'impulsion sur le parasympathique, ou qu'il y a trop d'impulsion sur le système sympathique, alors pour les auditeurs, le système sympathique, c'est celui qui fonctionne avec l'adrénaline, et bien en fait, on se retrouve avec un problème d'érection. Et donc, en fait, ce déséquilibre dans les deux systèmes d'innervation peut être lié à différents facteurs qu'on va passer en revue.
Comment détermine-t-on l'origine de la dysfonction érectile ?
Alors, l'origine de la dysfonction érectile, elle se détermine par l'interrogatoire. Ça, c'est très important. Donc, l'interrogatoire est clé. Donc, l'interrogatoire va recenser les maladies, comme par exemple le diabète. Donc, le diabète peut être pourvoyeur de dysfonction érectile, c'est-à-dire qu'une personne qui a le diabète, elle a plus de chances d'avoir un problème d'érection. Après, on va regarder les antécédents chirurgicaux. Par exemple, quelqu'un qui a eu une prostatectomie radicale, donc une ablation totale de prostate, bien sûr, a un risque important d'avoir un trouble de l'érection. Après, on va regarder donc les facteurs toxiques qui peuvent aussi jouer. Donc les facteurs toxiques, c'est le tabac, c'est le cannabis. On va également s'enquérir des antécédents psychologiques de la personne, donc savoir si ce n'est pas une personne qui est très anxieuse. Et on va regarder également la qualité de son fonctionnement de couple. Donc en fait, est-ce que la personne a des relations souvent, pas souvent? Est-ce que le couple est motivé, donc que la compagne n'est pas malade? Est-ce que le patient est suffisamment stimulé? Donc tu vois qu'on va balayer des choses assez larges, des choses qui couvrent à la fois les facteurs organiques, les facteurs psychologiques, les facteurs culturels et même les facteurs éducationnels, c'est-à-dire quelle est l'éducation sexuelle qu'a pu avoir le patient. Et donc en fait, la dysfonction érectile, elle est la résultante de tout ça, parce que trop souvent on entend dire est-ce que c'est psychologique ou est-ce que c'est organique. En fait, nous, on peut amener que des probabilités. C'est-à-dire, en gros, monsieur, vous avez tel facteur, donc vous êtes surexposé au problème d'érection. Et après, si vous avez plusieurs facteurs, on va essayer de faire jouer des leviers. C'est-à-dire, par exemple, pour en revenir au diabète, on va expliquer au patient que c'est très important d'équilibrer son diabète, d'être avec un projet de couple pour que tout ça marche bien. Mais on ne pourra pas dire est-ce que c'est plus le diabète ou est-ce que c'est plus le dysfonctionnement du couple.
Et comment évaluer la dysfonction érectile?
Alors, la dysfonction érectile, on va l'évaluer par rapport à plusieurs critères. Est-ce qu'elle est primaire, c'est-à-dire le patient l'a toujours eu, ou est-ce qu'elle est secondaire? Donc, à ce moment-là, elle est arrivée à un certain moment. Donc, quand elle arrive à un certain moment, est-ce qu'elle arrive de manière progressive? Donc ça, ça va plutôt orienter vers un lien avec une maladie. Ou est-ce qu'elle arrive de manière brutale? Donc si elle arrive de manière brutale, ça peut être un événement. Donc il faut rechercher cet événement qui peut être un stress. Le stress peut être en lien avec beaucoup de choses. Donc il peut être en lien, par exemple, avec le travail, avec la famille, avec le couple. En sachant que la famille, dans les événements familiaux importants, il y a les décès des proches, par exemple des parents. Et puis, on va également regarder s'il y a d'autres symptômes sexuels. Ça, c'est très important. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a des troubles du désir? Est-ce que le trouble du désir est secondaire ou primaire? Parce que, par exemple, quand on a moins d'érection, on va avoir moins envie. Donc, ou est-ce qu'au contraire, il y a moins envie et qu'on va moins chercher la relation avec sa compagne? Est-ce que ça s'accompagne de troubles de l'éjaculation? Donc, est-ce que l'éjaculation est bloquée? Est-ce qu'elle est au contraire rapide? Donc, en fait, on va faire le tour des symptômes sexuels et on va essayer de comprendre comment ce qu'ils sont apparus.
Et à quel moment consulter un médecin?
Alors, à quel moment consulter un médecin? La réponse, c'est dès qu'on est inquiet et qu'on veut en parler. Alors, c'est vrai que pour les auditeurs, il faut quand même qu'ils gardent présent à l'esprit que ce n'est pas forcément à la première panne, puisque tout à l'heure, j'ai dit que les pannes étaient fréquentes. Donc, on peut se donner un délai raisonnable de un mois, voire deux à trois mois, puisque la panne peut disparaître, en fait, si c'est simplement un petit peu de fatigue ou de stress. Et en fait, c'est que vraiment, si ça se répète, que c'est conseillé de consulter. Bon, après, moi, je vois régulièrement des patients qui consultent au bout de quelques semaines.
Tu as déjà parlé, mais est-ce que tu pourrais approfondir un peu la relation entre la dysfonction érectile et les facteurs psychologiques?
Alors, les relations entre le facteur psychologique. Déjà, la première relation, c'est que l'apparition d'une panne va induire ce qu'on appelle une anxiété de performance. C'est-à-dire que le patient, il appréhende le moment où il va être sollicité par sa compagne et en fait, il se dit « je ne vais pas y arriver ». Et quand il se dit « je ne vais pas y arriver », eh bien, en fait, il va décharger de l'adrénaline. Et à ce moment-là, il va accentuer la panne et on va être dans ce qu'on appelle un cercle vicieux. Donc, ce cercle vicieux, c'est très important d'en parler. Donc, la plupart des patients, en fait, comprennent bien cette notion de cercle vicieux et spontanément l'évoquent. Et il faut bien leur confirmer que le cercle vicieux peut faire que si on ne s'adresse pas à un médecin sexologue, on va être sans arrêt en échec. Donc, la consultation est importante. Après, donc, il y a tous les patients qui ont des maladies psychologiques. Alors, la maladie psychologique, ça peut être soit une maladie assez prononcée, comme par exemple les troubles bipolaires ou la schizophrénie, où là, on a des médicaments assez forts qui peuvent être des neuroleptiques. Et donc, ces neuroleptiques peuvent entraîner des troubles de l'érection. On peut également avoir simplement un caractère anxieux. Donc ça, c'est au-delà de l'anxiété de performance passagère ou un caractère dépressif. Et là, en fait, au cours de cet épisode anxieux ou dépressif, on va développer en fait un trouble de l'érection, d'autant plus qu'on est sous antidépresseurs. Parce que donc les antidépresseurs peuvent favoriser et les troubles de l'érection et les troubles de l'éjaculation.
Pour continuer dans le sujet des médicaments, est-ce qu'il y a d'autres médicaments et des produits toxiques qui sont impliqués dans la dysfonction érectile?
Oui, alors, donc tout à l'heure, j'ai évoqué le tabac et le cannabis. Donc ça, c'est des produits qui ne doivent pas être banalisés, surtout le cannabis. Donc après, donc il y a les médicaments qui sont prescrits pour toutes sortes de maladies. Donc par exemple, il y a certains antidépresseurs, donc comme je vous ai dit, qui vont favoriser les troubles de l'érection et les troubles de l'éjaculation. Il y a certains neuroleptiques, pratiquement tous les neuroleptiques. Il y a les tranquillisants, donc qui peuvent entraîner des troubles de l'érection. Dans le domaine du diabète, donc il y a pas beaucoup d'antidiabétiques, mais par contre, souvent le diabète est associé à l'hypertension. Et il y a quand même quelques antihypertenseurs, essentiellement des diurétiques, qui peuvent être impliqués dans les troubles de l'érection, et également les fibrates. Donc les fibrates, c'est ce qu'on donne pour le cholestérol. Donc maintenant, on utilise plutôt des statines. Les statines sont un peu moins toxiques pour le corps caverneux. Et puis bien sûr, il y a des traitements de chimiothérapie. Donc la chimiothérapie peut être neurotoxique. Donc en fait, toute la chimiothérapie peut entraîner de temps en temps des problèmes d'érection. Il y a aussi les anti-androgènes. Donc les patients qui ont un cancer de prostate et qui du coup n'ont plus de testostérone, bien sûr, sont exposés aux problèmes d'érection. Donc voilà pour les médicaments principaux. Après, bien sûr, chez les transplantés, il y a quand même certainement un rôle des immunosuppresseurs sur la fonction érectile. Et on prescrit de plus en plus d'anticorps monoclonaux qui peuvent aussi avoir en fait un impact. Et puis après, si on sort des médicaments, il y a les facteurs toxiques, comme par exemple la radiothérapie. La radiothérapie pelvienne, toujours pareil, qui va être prescrite pour les cancers de prostate, peut bien sûr jouer un rôle dans la dysfonction érectile.
Quelle est la relation entre la dysfonction érectile et l'âge? Est-ce qu'on doit toujours accepter comme la dysfonction érectile en faisant partie d'un processus normal de vieillissement ou pas?
En fait, à partir de 50 ans, la fonction érectile, elle est moins performante. Et ça, c'est une discussion qu'on a beaucoup eue au moment du lancement du Viagra, c'est-à-dire finalement, quelle est l'érection idéale pour un patient? Est-ce que c'est l'érection de ses 20 ans ou est-ce qu'il va accepter que son corps vieillisse, c'est-à-dire que son corps soit moins performant? Et donc, c'est difficile de placer la limite entre la performance et tout simplement une érection correcte. Par exemple, nous, on utilise un score de rigidité pour caractériser l'érection. Donc, un score à 4, c'est une érection parfaite. Et une érection à 3 permet une pénétration, mais ce sera un peu moins parfaite. Donc, est-ce que la personne, elle veut toujours être à 4, c'est-à-dire elle veut toujours avoir une érection parfaite, ou est-ce que finalement, elle accepte de fonctionner un peu différemment, c'est-à-dire avec une stimulation différente? Donc ça, c'est aussi important. Moi, j'ai souvent des patients qui me disent « je ne réagis plus aux femmes comme avant. Donc, sous-entendu, quand maintenant je me promène dans la rue, je n'ai plus d'érection en voyant simplement une jolie fille. Et en fait, je leur dis, ben voilà, ça, c'est l'âge. C'est-à-dire qu'il y a en fait une intellectualisation, une construction de la relation sexuelle qui se fait sur l'émotionnel. Et donc, en fait, on n'est plus dans le visuel pur, on est dans le visuel plus l'interaction avec la partenaire et donc la relation émotionnelle. Donc ça, c'est souvent des choses qu'on a à expliquer.
Tu as parlé du Viagra, mais quels sont les traitements qu'on a actuellement de la dysfonction érectile ?
Alors, dans la dysfonction érectile, effectivement, quand il n'y a pas de contre-indication, le traitement de première ligne qui est préconisé, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs des 5-phosphodiestérases, dont fait partie le Viagra. Donc, ce sont des amplificateurs d'érection. J'insiste là-dessus, ce ne sont pas des aphrodisiaques. C'est-à-dire, ça ne va pas donner envie, mais ça va faire que l'érection va être de meilleure qualité. Et c'est le cas que s'il y a une stimulation sexuelle et qu'il y a un rapport sexuel. Donc ça, il faut bien l'expliquer au patient et à sa partenaire pour qu'il puisse, si la partenaire est là ou qu'il l'explique à la partenaire, parce que, en fait, ça, c'est très important, en fait, que le patient sente que c'est un coup de pouce, mais que ça ne va pas être quelque chose qui va doper au-delà de la normalité, son érection. Donc, il le prend une à deux heures avant. Et donc, dans la catégorie de ces inhibiteurs des 5-phosphodiestérases, on a 4 médicaments qui sont commercialisés en France. Donc, on a le Viagra, le Cialis, le Levitra et le Spedra. Et on a 3 qui sont génériqués. Donc, le Viagra, le Cialis et le Levitra. Et donc, le fait qu'ils soient génériqués, ils sont quand même beaucoup moins chers. Donc, si le patient va dans une pharmacie qui a des prix intéressants parce qu'il en vend beaucoup, le prix peut être d'environ 1 euro par comprimé. Donc, ça reste raisonnable.
Est-ce qu'il y a d'autres types de traitements? Par exemple, est-ce que tu peux parler, est-ce qu'on a l'indication de mettre des prothèses? Est-ce que ça fait partie aussi des traitements qu'on peut proposer aux patients?
Alors, effectivement, donc j'ai parlé du traitement de première ligne. Des inhibiteurs des 5-phosphodiestérases qui comportent peu de contre-indications. Donc, la contre-indication, c'est la prise de dérivés nitrés. Donc, les gens qui ont eu un infarctus du myocarde et qui prennent, par exemple, qui ont des patchs ou qui prennent du Natisprey. Donc, ça, c'est une contre-indication absolue. Donc, si les patients ne sont pas répondeurs ou présentent des contre-indications, on va passer à un traitement de deuxième ligne. Donc, dans le traitement de deuxième ligne, il y a la prostaglandine. Donc, la prostaglandine, c'est un inducteur d'érection. Donc, c'est plus fort que les amplificateurs. Ça peut être remboursé dans certains cas, comme par exemple les cancers prostate ou de la vessie ou les diabétiques. Et en fait, cette prostaglandine peut être administrée sous une forme intracaverneuse. Donc, on va faire une piqûre sur le côté de la verge. Donc, il y a deux marques. Il y a Edex et Cavergeps, et ça peut être mis également dans le BA, donc ça va passer à l'intérieur du gland, et ça, c'est le système du Vitaros. Et puis, il y a également le système de l'érecteur à dépression, donc ça, c'est une pompe qui va aspirer le sang dans la verge, et pour que le sang reste dans la verge, on va, en fait, mettre un garrot. Et ce garrot permet d'avoir une érection de bonne qualité. Donc, ce traitement érecteur dépression peut être utile, surtout chez les diabétiques, mais également après une prostatectomie radicale. Et il faut qu'il y ait une bonne explication du système au patient. Mais ça, maintenant, c'est vraiment relativement au point, puisque les fabricants eux-mêmes ont des personnes qui répondent au téléphone et qui expliquent bien, et que nous, en tant qu'andrologues, on explique bien aux personnes. Après, on peut utiliser un système de garrot, simplement pour compléter l'action de la piqûre, du cachet ou du Vitaros. Donc, ce garrot, il va lutter contre la fuite veineuse. Donc, en gros, le sang, il arrive par la verge, il va arriver plus facilement grâce aux médicaments et on va l'empêcher de partir simplement en mettant un garrot. Après, donc, effectivement, il y a les prothèses. Donc, les prothèses, c'est un traitement de troisième intention. C'est un tuteur dans la verge qui va jouer le rôle du sang. C'est-à-dire que le tuteur, il va être gonflé par de l'eau dans les prothèses les plus sophistiquées, avec un système de pompe qui va permettre de rigidifier le corps caverneux, mais on n'aura pas d'érection du gland. Et on aura quand même une perte de longueur. Et donc, comme traitement en corps d'appoint, il y a la psychothérapie qui peut être utilisée sous différentes formes. Donc, par un psychosexologue. Donc, le psychosexologue, il va utiliser différentes techniques. Il peut travailler sur le plan analytique. Il peut travailler avec de l'hypnose, avec de l'EMDR. Donc, en fait, le psychosexologue, c'est aussi quelqu'un d'important quand il y a des troubles psychologiques, ou simplement un souhait de discuter plus des approches psychologiques que nous, on est capable de proposer aux patients en tant que non-psychologue. Donc, le patient peut aller voir un psychosexologue. Et puis, on a aussi les kinésexologues. Alors, les kinésexologues, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont permettre aux patients de mieux contrôler ses érections grâce au mouvement du périnée. Donc, en fait, le patient va travailler son périnée et ça, ça va lui permettre de stabiliser son érection. Donc ça, ça peut être intéressant aussi chez les diabétiques ou chez les jeunes qui sont un petit peu émotifs pour la connaissance du corps. Donc, en fait, on peut faire appel à un psychosexologue. Donc, tu vois qu'on est en réseau. On est en réseau, c'est-à-dire que le médecin sexologue a fait un bilan. Alors, dans le bilan, d'ailleurs, je n'ai pas parlé du bilan biologique. Le bilan biologique, il est assez simple. C'est regarder s'il n'y a pas un syndrome métabolique. Mais souvent, le médecin généraliste l'a fait. Donc, le syndrome métabolique, c'est regarder s'il n'y a pas de sucre et de cholestérol. Et puis, on va aussi regarder s'il n'y a pas de testostérone basse. La testostérone basse est un facteur important. Après, en fonction des signes, on peut regarder d'autres hormones. Mais par exemple, si on a un problème sur la thyroïde, le plus souvent, on a d'autres symptômes qui vont alerter.
Avec ton expérience dans ces domaines, est-ce que tu as l'impression que les dysfonctions érectiles, ça augmente avec le temps ? Et si c'est le cas, tu attribues ça à quel facteur ? Est-ce que c'est un problème de société, le stress ? Est-ce que c'est la pollution ? Est-ce que tu peux toucher un mot sur ces sujets ?
Alors ça, c'est une très bonne question. Donc en fait, ce qui est frappant, c'est l'augmentation des troubles de l'érection chez les jeunes. Et ça, c'est lié effectivement à un problème de société avec des difficultés dans le concept de la masculinité. Parce que maintenant, les jeunes, on leur dit que il faut être respectueux et ça, c'est tout à fait important. De leur partenaire, mais d'un autre côté, leur repère érotique, souvent, et leur éducation sexuelle, ça a été les films pornographiques. Et donc, les films pornographiques sont un vrai danger pour les jeunes parce que ils pensent que la sexualité, c'est faire comme dans les films. Donc, en fait, l'éducation sexuelle est particulièrement importante. Donc, normalement, elle devrait être faite déjà au lycée, puisque c'est prévu que ça rentre dans le cadre de cours dispensés au lycée, sauf que pour l'instant, c'est pas forcément très bien mis en place. Et en fait, on tombe en plus sur des difficultés culturelles, c'est-à-dire que les parents ne sont pas tous d'accord pour que les enfants aient des cours d'éducation sexuelle. Donc du coup, les jeunes, ils se débrouillent un peu comme ils peuvent. Donc en fait, ils ont accès à tout sur leur téléphone. Et puis, ils ont accès à des informations qui ne sont pas bonnes.
Ces jeunes-là, est-ce que l'abordage, elle est plutôt du côté psychologique ou est-ce que, avec ton expérience, il y a aussi un côté thérapeutique avec des médicaments qui doit être fait ?
Le côté psychologique, bien sûr, est important parce qu'il faut lutter contre les fausses croyances. Donc, il faut partir sur des notions de physiologie qu'il faut savoir expliquer. Ça va rassurer le patient. Donc, on peut quand même prescrire un médicament, voire de la phytothérapie pour aider le patient à sortir du cercle vicieux. Et puis, à mon avis, il y a une très grosse prévention à faire du côté des jeunes sur l'alcoolisme et le cannabis. Parce qu'en soirée, ils consomment des produits toxiques. Donc là, il faut vraiment faire de la prévention là-dessus, leur dire que l'alcoolisation excessive n'est pas bonne. Le cannabis récréatif, une fois de temps en temps, ça peut aller, mais le cannabis pluricotidien n'est pas bon. plus tous les médicaments ou les toxiques surtout, parce que c'est pas des médicaments, les toxiques qui sont sous le manteau, et il y en a de plus en plus, et nous on n'a pas la main sur les produits qui sont consommés, et en fait il y a un problème très important chez les jeunes qui s'appelle le shame sex, c'est-à-dire que les jeunes prennent l'habitude d'avoir des relations sous chimie, donc sous toute espèce de produits qui sont dangereux. Donc les parents, il faut qu'ils soient au courant de ça, et il faut que la société surtout soit capable de lutter contre ce fléau.
Le sujet est tellement intéressant qu'on voit pas le temps passer. Et malheureusement, le temps continue à passer et on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé que tu penses que c'est intéressant avant qu'on finalise cette très intéressante émission?
Non, Edmond. Donc, moi, je pense que les questions, elles ont permis de balayer les points les plus importants. Et surtout, la dernière question sur l'épidémiologie des troubles sexuels des jeunes, qui a quand même pas mal changé ces dernières années, et l'importance de l'éducation sexuelle. Donc, je pense qu'on a tout balayé et il faut essayer de sensibiliser notre environnement, donc l'ensemble des familles qui puissent arriver un peu à en discuter, et également les professionnels de santé, parce qu'il n'y a pas suffisamment de professionnels de santé qui s'intéressent au sujet.
Un grand merci, Béatrice, pour ton temps, pour toutes ces explications très intéressantes. Tu sais que l'antenne de Phare FM est toujours ouverte. Tu reviendras quand tu veux. Et bon, ici, en Tarn-et-Garonne aussi, on espère bien que tu viennes nous rendre visite. Tu es toujours la bienvenue. Merci beaucoup de ton temps et d'avoir donné toutes ces explications.
Merci, Edmondo. Merci, Laurent.
Bon, merci. Laurent, je te passe l'antenne.
Merci, docteur Cuzin, d'être passé sur Phare FM Montauban. Merci pour votre explication. Si vous désirez réécouter ou partager cette émission, elle est disponible en podcast sur notre site www.pharefm.com. Rubrique La Santé, c'est l'affaire de tous.